Et à 23h13, nous accueillons Anne-Lise au 3921. Bonsoir Anne-Lise.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anne-Lise et quel âge avez-vous ?
De Paris, en Ile-de-France, et j'ai 22 ans.
D'accord, très bien. 22 ans. De quoi voulez-vous me parler ? Dites-moi.
Aujourd'hui, j'aimerais parler du harcèlement scolaire que j'ai subi et de la reconstruction par laquelle je passe.
D'accord. Mais je vous écoute. Ce harcèlement scolaire, vous l'avez vécu à quel âge et dans quelles conditions ?
Je l'ai vécu à partir de mes 11 ans jusqu'à mes 18 ans.
Ah oui ?
Ouais, ça a duré très longtemps. Donc ça a commencé au collège quand j'étais en 6e. Et au début, ça a commencé parce que j'étais une bonne élève.
Oui.
On m'insultait, on disait que j'étais une intello, que j'allais encore avoir 18, etc. Donc au début, je me disais que c'était pas très grave parce que c'était des gens que je connaissais. Et au fil des mois, ça s'est aggravé.
Oui.
Et on a commencé à m'insulter sur mon physique. On me disait « t'es une puce, t'es une salope, t'es grosse ». Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à être atteinte parce que en 6e, on commence à se construire, on apprend à s'aimer.
Oui.
Et moi, malheureusement, on ne m'a pas laissé cette possibilité-là.
Oui.
Donc, j'ai commencé à me détester. J'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Et vraiment, ça a été très compliqué pour moi de vivre cette année de 6e.
Et vos parents se rendaient-ils compte que vous étiez en train de vivre ce harcèlement ?
Je ne pense pas. Parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout de soutien. Et j'en ai parlé assez tard quand même à ma mère parce que j'avais peur. Et aussi parce que j'en avais déjà parlé à l'école. Et étant donné qu'on ne m'avait pas cru, on m'avait juste dit « mais c'est de la jalousie, ça va passer ». Je me suis dit « bon, bah, si à l'école on réagit comme ça et on ne croit pas ma voix, j'ai l'impression que ça va être pareil si j'en parle à la maison ».
Vous avez cru qu'on ne vous croirait pas en fait hein. Vous avez
oui,
pensé ça.
Et oui.
Quel était le profil des élèves qui vous harcelaient ?
Ils n'avaient pas forcément, en fait. C'était vraiment des élèves lambda en 6e. Et après, c'est vrai qu'en 5e, quand je suis arrivée en 5e, c'était plutôt les élèves, on va dire, populaires, mais qui ne travaillaient pas. Donc, un peu les élèves qui venaient à l'école sans aimer l'école, qui étaient un peu forcés à venir à l'école.
Oui. Et quand vous dites populaire, c'est ceux qui avaient la cote, un peu ceux qui... c'est ça que vous entendez par là ?
Bah, je veux dire par là, les élèves qui avaient beaucoup d'amis, mais parce que justement, ils étaient méchants.
Oui, d'accord.
Et donc, ils étaient craints. Parce que moi, dans le sens inverse, j'avais beaucoup d'amis, mais j'étais aimée parce que justement, je travaillais bien, j'étais sportive, etc.
Et il y a eu un choc, donc, arrivé au collège, en fait, parce que tout se passait bien avant.
Bien sûr. Tout se passait très bien pour moi. C'est même ça qui m'a choquée. En fait, je suis allée dans un collège de secteur à côté de chez moi.
Oui.
Et c'est vrai que dans ce collège-là, les élèves n'aimaient pas travailler, en fait. Donc moi, je me suis un peu retrouvée l'intrus de la classe, quoi.
Oui,
c'est ça. Qui aimait travailler, qui aimait l'école. Entourée de personnes qui n'aimaient pas l'école, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai été prise pour cible.
D'accord. Et ça, impossible d'en parler à vos parents, même en 6e. Vous ne leur avez jamais fait part du fait que vous vous retrouviez dans un collège où ça ne bossait pas des masses autour de vous. Est-ce qu'ils auraient été sensibles
parlé,
à ça
si. Oui. C'est vrai que je dis justement que je ne voulais pas aller dans ce collège-là, mais en fait, on avait fait une dérogation pour aller dans un autre collège, mais qui avait été refusé malheureusement. Donc j'étais obligée d'aller dans ce collège-là.
D'accord. Jamais ils n'ont pensé à vous mettre dans le privé, par exemple ?
Non.
D'accord, ils n'avaient peut-être pas les moyens non plus.
Oui, c'est ça.
D'accord. Ça a duré longtemps, hein ?
Oui, Anne-Lise. C'est vraiment... Oui.
Alors...
Surtout qu'à partir de la 5e, j'ai commencé à être frappée. Au début, c'était que des insultes.
Oui.
À partir de la 5e, j'ai commencé à être frappée dans les couloirs, quand on voyait, on me poussait, on me bousculait dans les escaliers, on me tabassait. Donc, c'était vraiment très dur à supporter, en fait.
Vous aviez peur ?
Oui, j'avais constamment peur de me retrouver face aux personnes qui me harcelaient. Surtout qu'on n'avait pas parlé du harcèlement, je ne connaissais pas ce terme-là.
Mmh.
Et les adultes qui étaient au courant faisaient comme s'il ne se passait rien.
Oui. Et quel impact ça avait sur vous, au-delà de la peur ? Vous m'avez dit tout à l'heure que finalement, à un âge où on apprend à s'aimer, c'est vrai, vous avez raison, l'entrée en 6e, c'est... la préadolescence, donc c'est très important. Quelque part, on quitte le milieu, en tout cas moi je me souviens, hein, le milieu des petits.
Oui.
Et on rejoint les grands, quoi, en fait, la sixième. Et en fait, vous avez perdu confiance en vous instantanément ?
Oui, c'est ça. Mais franchement, à partir du moment où on m'a dit « t'es grosse, t'es une pute », bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « ah, wow, peut-être qu'ils ont raison, c'est moi le problème, en fait ». Étant donné que les adultes à qui j'en parlais et qui étaient au courant, parce que ça s'est passé en classe, ne faisaient rien, ne réagissaient pas. Ils me disaient « bah oui, ils ont raison, en fait ». Donc j'ai commencé à perdre confiance en moi, j'ai commencé à me détester, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Donc je plongeais ma tristesse, mon incompréhension des violences, en fait, dans la nourriture. Ou d'autres fois, je ne mangeais plus du tout, en fait.
Oui.
Donc je perdais énormément de force. Mais c'est vrai que c'était très compliqué. Et arrivé en cinquième, étant donné que ça continuait, en fait, et qu'en plus de ça, j'ai commencé à être frappée, à partir de la cinquième, j'ai commencé à me mutiler parce que je me détestais et que j'avais l'impression que c'était normal de se faire du mal, en fait.
Quelle horreur.
Oui.
C'est l'horreur, hein, ça. C'est, vous commenciez à vous mutiler, donc quoi, à vous scarifier ?
Oui, c'est ça.
Et vos parents remarquaient-ils ça ?
Toujours pas. Mais c'est vrai que pour le trouble du comportement alimentaire, il y avait quand même des soupçons. Et c'est vrai qu'on ne m'a jamais posé de questions.
Est-ce que le fait que vous soyez issu d'un milieu moyen, en fait,
oui,
où on n'a pas vraiment les moyens de consulter, vous voyez, est-ce que vous n'avez pas jamais finalement été confronté à un spécialiste à qui vous auriez pu parler, par exemple, est-ce que vos parents vous ont emmené chez un psy à un moment ou quand il y a eu les troubles alimentaires?
Non, parce que c'est vrai que à aucun moment on s'est demandé ce qui se passait. Donc j'ai été livrée à moi-même.
Comment est-ce que vous jugez ça aujourd'hui, Annelise ? Comment est-ce que juger, hein, c'est un bien grand mot, mais comment, ouais, vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous jugez si l'attitude de vos parents à ce moment-là, le manque d'attention et le manque de perception ?
Oui. Ben, c'est vraiment très dur parce qu'on se dit que justement, on est un enfant, et donc on se dit que c'est normal que normalement nos parents soient là pour nous et qu'ils fassent tout le possible justement pour qu'on se sente bien, pour qu'on aille bien quand on est à l'école, quand on est à la maison, et c'est vrai que j'ai manqué de ça. Et je pense effectivement que si mes parents avaient été plus attentifs, potentiellement, il y aurait des choses qui ne se seraient pas passées.
Bah, potentiellement,
après,
je n'ai
pas rejeté la faute sur mes parents, parce qu'il y a aussi malheureusement les professeurs qui étaient au courant, parce que ça se passait à l'école, dans les couloirs, j'en ai très souvent parlé, et à aucun moment on s'est dit que c'était grave, à aucun moment on s'est dit on va appeler ses parents, à aucun moment on s'est dit on va essayer d'arranger la situation ou rien. On m'a toujours tout le temps laissé toute seule, en fait, livrée à moi-même.
Voilà. Parce que je vois qu'on vous traitait de pute, hein, ce qui n'est pas particulièrement agréable, qu'à partir de la cinquième, on vous a frappé, que vous avez demandé quand même à changer de collège en cinquième, sans y parvenir. Ça veut dire qu'on ne s'est pas beaucoup bougé pour vous à l'époque, Annelise.
Pas du tout. Franchement, ça a été une catastrophe jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à mon entrée en quatrième, où il s'est passé une chose vraiment hyper grave, quoi.
Vous avez même raconté une agression un jour à une surveillante.
Oui.
Et elle vous a ri au nez en vous disant « ce sont des garçons, ils sont amoureux de toi ». Il fallait, il fallait que je meure pour qu'il se passe quelque chose, mais un peu,
bien sûr.
Ouais.
Mais bien sûr. Là, je me retrouve vraiment rouée de coups, tabassée, presque en sang, et j'étais en pleurs comme pas possible dans les couloirs. Il y avait des professeurs, des surveillants qui passaient dans les couloirs, mais qui faisaient comme s'il ne se passait rien, donc ils ont juste continué leur chemin. Et quand je vais voir une surveillante pour lui expliquer ça, elle rigole, littéralement, et elle me dit « oui, voilà, ils sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien, c'est normal qu'ils te frappent, c'est de l'amour, en fait. »
Oui, c'est de l'amour.
Donc ça...
L'amour des garçons qui vous demandaient sur les réseaux sociaux, qui vous traitaient de grosses putes et qui vous demandaient de les sucer. T'es une grosse merde, tu sers à rien.
Exactement.
Suicide-toi. Exactement. On a déjà entendu ces mots-là dans le cadre, en plus, de jeunes personnes, même d'enfants qui se sont suicidés.
C'est ça.
C'est quelque chose qui vous a traversé la tête, ça ?
Bien sûr, constamment, depuis la sixième, en fait. Et encore récemment, c'est très compliqué, en fait, de, d'apprendre à se reconstruire, à vivre, en fait, parce que toutes ces violences-là, elles restent imprégnées en nous.
Bah, je veux bien vous croire parce que ça vous projette l'image d'un monde ultra violent, rempli de gens méchants, en fait. C'est ça
C'est
l'idée
vrai que
que vous en aviez du monde?
il y a un peu cette perte de foi en l'humanité, c'est vrai.
Ouais.
On se dit que les adultes ne sont pas là pour nous, ils nous écoutent pas, ils ne nous croient pas. On dit que les jeunes qui sont témoins n'agissent pas non plus. Donc, waouh, c'est un choc. Et surtout que les personnes qui nous violentent, elles vont continuer à nous violenter. Parce que moi, ça a vraiment été le cas, en fait, toute ma scolarité. Donc, c'est tellement grave. Et il y a d'autres personnes qui, malheureusement, se sont suicidées ou qui ont été tuées, justement, par les personnes qui les violentaient. Et ça, c'est tellement insoutenable, en fait.
Vous dites qu'ils ont été tués?
Ouais.
Qu'entendez-vous par là?
Il y a vraiment des personnes qui ont été assassinées par les personnes qui les harcelaient, comme la jeune Gina. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont été frappées à mort, qui ont été poussées dans la Seine. Il y a tellement de violence, en fait. Et on ne parle pas assez du harcèlement comme les enfants qui sont tués. Parce qu'il y a des enfants qui se suicident, et ça, c'est tellement grave. Il y
Oui.
a également des enfants qui sont tués, littéralement. Et j'ai failli passer par là, moi aussi.
Dans quelles circonstances vous avez failli passer par là?
Alors, les personnes qui me harcelaient m'ont tendu un guet-apens un jour. Elles m'ont volé toutes mes affaires et je m'en étais pas rendu compte entre midi et deux. Donc, je suis retournée au collège pour prévenir l'administration qui m'a dit oh, on ne peut rien faire pour toi. Et en sortant de l'école, quand on n'était plus visible par la concierge, je me retrouve dans un guet-apens. Donc, les personnes qui me harcèlent m'entourent. Il y a une quinzaine de personnes devant moi. Et là, ils sont deux bidons d'essence. Il y en a une personne qui sort du groupe et qui me renverse sur moi littéralement un bidon d'essence entier. Et il y a une deuxième personne qui dit allez, remettez-lui tant d'essence sur elle, je vais la brûler. Donc là, il sort du groupe, il se rapproche de moi avec son briquet
Oh
allumé
là là.
et il maintient son briquet devant moi, allumé, en me menaçant de me brûler. Et ses amis derrière qui disaient en rigolant brûle-la, brûle-la, brûle-la. Ça a duré très longtemps et
C'était des
c'était
garçons,
vraiment
ça?
horrible. Oui, c'était les garçons qui me harcelaient à l'école.
D'accord. Suite à cet incident-là, il me semble que la justice s'en est mêlée. Vous en avez parlé de ces violences.
Oui, j'ai porté plainte avec ma mère et il ne s'est rien passé. Ma plainte a été classée sans suite.
Et votre mère, à ce moment-là, elle ne se décide pas à vous changer de collège?
Si on a changé, en fait, on a fait une demande de changement de collège. L'école a refusé, le collège dans lequel j'étais a refusé de que je change d'école parce que selon eux, c'était impossible étant donné que si je partais, ça allait faire baisser les statistiques de l'école parce que j'étais une très bonne élève, donc mes notes allaient manquer à l'école, donc ils ont refusé que je parte. Donc j'ai dû rester pendant un mois et demi dans le collège et ma mère a fait appel au rectorat.
Oui,
Justement pour que je puisse changer de
oui.
collège et pour que je sois protégée, quoi. Le rectorat a refusé de nous aider, mais ils ont dit, bon, vous savez quoi, on va lui envoyer un garde du corps. Donc j'ai eu un garde du corps qui venait me chercher à la maison, au collège, qui était tout le temps avec moi.
Un garde du corps?
Ouais.
Carrément. Payé donc par le
Ouais.
rectorat.
C'est ça.
Incroyable, c'est la première fois que j'entends ça.
Mais nous aussi, c'était hallucinant.
Ça a duré jusqu'à vos 17 ans, hein, et notamment, ça a continué, ces gens-là, vous traitez de balance, enfin bon, vous avez vraiment été harcelé très durement, fortement.
Oui.
Ça va s'arrêter à 17 ans, comment? Vous avez le bac et vous partez?
C'est ça en fait. J'ai eu mon bac et j'ai décidé d'entrer dans une très bonne fac. Et étant donné qu'elle était un elle était sur Paris, mais elle était plus proche de chez ma sœur, donc j'ai décidé d'aller habiter chez ma sœur pendant un an. Et c'est vraiment le fait que je déménage qui a fait que le harcèlement s'est arrêté.
D'accord. Et
Parce qu'ils ont arrêté de me poursuivre jusqu'à chez moi, en fait, tout le temps.
Ah ben oui, vous m'étonnez, vous n'étiez plus là, donc ils n'avaient plus personne à
C'est
se
ça.
mettre. Vous êtes resté
C'est
chez
ça.
votre sœur donc pendant un an. Vous
Oui.
avez passé votre bac là-bas ou
Non, non, non. Là, j'ai commencé à être. C'était post-bac. C'était vraiment après le bac que j'ai
Oui.
déménagé, en fait. Mais ça s'est arrêté comme ça.
Et vous avez fait des études après en fac ou qu'est-ce que vous avez fait après?
Oui, c'est ça. J'étais en fac de droit.
D'accord. Bon, Aujourd'hui, vous avez une belle voix, même si vous m'avez dit que j'entends par belle voix. D'abord, vous avez une belle voix, tout court, mais je ressens beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette voix, beaucoup d'envie aussi de parler de cette histoire pour faire du bien, communiquer sur le harcèlement et montrer aux autres que c'est possible de s'en sortir et qu'il faut surtout parler. Et si on ne vous croit pas, eh bien, il faut aller voir quelqu'un d'autre.
Attendre
vraiment qu'on trouve la personne qui va nous croire, vous croire. Parce que il ne faut pas s'arrêter à un surveillant crétin qui vous rigole au nez ou une prof qui ne veut pas faire l'effort de vous croire. Ça peut arriver comme le contraire peut arriver. Vous pouvez tomber sur une surveillante ou un surveillant courageux. Alors, moi, j'appelais ça les proviseurs, mais aujourd'hui, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comme ça.
Directeur et directrice, mais sinon toujours proviseur, oui, on peut toujours appeler.
D'accord, d'accord. On les appelle toujours comme ça, ok.
Oui.
Mais vous pouvez tomber sur des gens qui ont un peu plus de courage et qui vont prendre des mesures. Vous qui nous écoutez, ou vous qui êtes parents ou grands-parents, soyez attentifs à vos enfants, posez-leur des questions. Même si tout semble bien aller, posez-leur des questions. Parce que vous entendez ce soir le témoignage d'Anne-Lise qui finalement... pensait qu'on ne la croirait pas, donc a fini par rester seule et puis à souffrir, en fait. Hein, Anne-Lise ?
Oui, tout à fait.
Donc vous m'avez dit qu'aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux. Ça passe par... c'est passé par quoi ? Au-delà du fait d'avoir été chez votre sœur et d'avoir compris qu'ailleurs, on ne vous harcelait pas. Ailleurs, il y avait peut-être des gens beaucoup plus sympathiques. Et puis ensuite, la fac, je suppose. Parce que ça s'arrête souvent en fac, hein, tout ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que déjà, à la fac, les gens sont beaucoup plus matures. Donc ça aide. On se rend compte que la vie, c'est pas de la violence, en fait. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'écoute et d'entraide dans la vie, d'une manière générale. Donc ça fait du bien de trouver ça. Et je pense que moi, ça c'est quand même... ma reconstruction passe quand même par l'aide que j'ai pu recevoir de ma sœur, parce que ma sœur m'a beaucoup aidée, outre le fait d'aller habiter chez elle. Elle m'a un peu fait redécouvrir le monde, en fait. Le monde gentil, la découverte des musées, du théâtre, du cinéma, et de plein de choses, en fait, qui m'ont animée, qui m'ont fait du bien, au-delà des violences que j'avais pu subir. Donc de mes passions aussi, parce que j'ai fait beaucoup de handball, j'ai toujours beaucoup écrit, jusqu'au moment où ma sœur m'a dit, Annie, tu sais quoi, tu devrais créer un podcast. Et donc là, je me suis dit, ah, mais quelle bonne idée.
Oui.
J'ai créé un podcast qui s'appelle Smile, sur lequel j'aide les personnes qui sont victimes de violences, dont de harcèlement scolaire, à s'aimer, à croire en elles, à libérer la parole surtout, et à se reconstruire.
D'accord, et ça marche bien
là... ça marche ça marche très bien.
Super.
Ça me fait beaucoup de bien à moi, parce que je me permets d'exister, je me permets de vivre et d'aider d'autres personnes grâce à mon vécu qui a été traumatique. Et maintenant, mon vécu, je le sublime, en fait, pour aider des personnes à se relever à leur tour, à s'aimer et à ne pas se sentir seule.
Magnifique, Anne-Lise. Et est-ce que... alors, on vous trouve où, Smile ? On le trouve où, ce podcast ? Dites-nous.
Alors, sur toutes les plateformes de communication, d'écoute, donc Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.
Ouais.
Et bien sûr, on peut également venir sur mon profil Instagram directement, Anne-Lise Debat, tout décollé avec un Z, pour écouter les conseils que j'ai à partager, les textes que je partage sur les réseaux sociaux, pour justement aider les personnes au quotidien à reprendre confiance en elles, à s'aimer, à oser libérer la parole, et à se sentir entourée. Parce que pour moi, c'est très important de se sentir entourée, et pas de se sentir seule, justement. Et c'est ce que je partage sur mon podcast et sur mes réseaux sociaux.
Complètement, vous avez raison. Et je suis curieux un petit peu, aujourd'hui, vous n'habitez plus chez vos parents, ou vous avez une petite chambre d'étudiante, ou vous êtes en CTU, comment ça se passe ?
Non, alors aujourd'hui, je suis toujours chez ma maman.
Oui.
Donc, toujours au même endroit, en fait. Donc, ça qui est un petit peu compliqué quand même au quotidien, de repasser dans le collège quand je sors, etc. Mais ça se travaille, je travaille, j'ai des psychologues, j'ai une psychiatre.
Oui.
Donc, on travaille là-dessus, justement, pour que j'aille mieux, pour que j'aille bien, pour que j'arrive à nouveau à vivre. Parce que c'est très difficile, mais avec l'aide des spécialistes de la santé mentale, on peut y arriver, en fait.
Uh-huh.
Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui.
Et est-ce que il vous arrive de recroiser d'ex-harceleurs? Parce que finalement, les harceleurs, passé le bac aussi, se calment, hein. Bon, ce sont les plus abrutis qui vont jusqu'au bac, hein, quand même, parce que vous avez eu l'air d'avoir affaire à des gens qui étaient quand même très, bah, qui ont poussé le curseur bien loin, puisque
Ouais.
ça a duré longtemps. Mais est-ce qu'il vous arrive d'en recroiser parfois quand vous rentrez chez vous?
Je les ai croisés vraiment jusqu'à à peu près 2018.
Oui.
Après, je les ai plus recroisés, non.
Bon, bah ça, c'est pas plus mal.
Oui, vraiment.
Vous n'avez pas d'appréhension en rentrant chez vous et tout ça, ça va.
Malheureusement, c'est les conséquences qui restent. Donc, je mets toujours, j'ai toujours peur quand même quand je suis dans la rue. Donc, je travaille dessus pareil avec ma psychiatre, ma psychologue, pour justement faire en sorte que je me sente mieux, que je me sente en sécurité dehors.
D'accord.
Voilà.
Bon, et vous avez des amis, beaucoup?
Oui, j'ai des amis, pas forcément à Paris,
Oui.
mais oui, j'ai des amis. Je m'entends bien avec ma meilleure amie qui s'appelle Chloé, qui vit à Amiens. Et très souvent, elle vient à Paris, comme ça, on se voit, mais sinon, on échange très souvent en message.
Oui.
Et ça fait du bien, en fait, de réapprendre à avoir des liens sociaux avec des personnes bienveillantes et saines, surtout. C'est important.
D'accord. Et donc, ce podcast, vous produisez à quelle fréquence?
Alors, au début, je faisais deux épisodes par semaine. Et puis maintenant, je fais surtout des one-shots. Donc, ça veut dire que je vais faire un épisode par semaine pendant une certaine durée.
Oui.
Donc là, les deux dernières séries que j'ai faites, c'était pour le mois de septembre, pour la rentrée des classes pendant une semaine. Ensuite, pour le mois de décembre 2022, c'était justement pour aider les personnes à traverser la solitude, à traverser les moments difficiles, notamment pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes, pour les personnes qui n'ont pas forcément de famille, qui
Oui.
se sentaient seules, qui se sentaient tristes. Et là, bientôt, normalement, la semaine prochaine, si tout se passe bien, je vais sortir une nouvelle saison. Enfin, qui va se propager jusqu'au mois de juin. Et ce sera pour aider les victimes de violences à déculpabiliser, à apprendre de nouveau à s'aimer et à se reconstruire.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée, justement, pour toutes ces personnes seules, déjà sur la région parisienne, hein, des jeunes comme vous? Hein, de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui, oui, pendant les vacances scolaires, sont totalement seuls, qui ont vécu le harcèlement, qui ont du mal, donc maintenant, qui sont méfiants, qui ont du mal à établir le contact. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer un lieu où se donner rendez-vous, ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans vos plans?
Oui, là, c'est ce que je, là, je suis en train de travailler dessus justement. Ça fait un an que je travaille sur un projet justement pour réaliser ce qu'on appelle un groupe de parole, pour qu'on puisse se rejoindre entre personnes qui ont été victimes de violences ou en tout cas de harcèlement scolaire, pour justement à nouveau trouver des liens sociaux, à nouveau trouver de l'amour, de la bienveillance
Oui.
entre les personnes qui existent. Et je pense sortir cela notamment normalement d'ici l'été prochain, début septembre.
Parce que vous voyez, je sais qu'il n'y a rien, finalement, pour les
Oui,
jeunes qui se sentent seuls.
tout à fait.
Et ça fait longtemps que je réfléchis à ce projet, moi, vous savez.
Oui.
De lancer, en fait, et alors, c'est difficile de trouver la forme exactement, comment donner rendez-vous dans un parc un jour à toutes les personnes qui ont envie ce jour-là de passer l'après-midi en groupe comme ça. L'idée du groupe de parole est une excellente idée, mais je pense que ça manque cruellement, ça, vous voyez? Ça manque
Oui, c'est vrai.
cruellement que toutes celles et ceux qui sont seuls et qui ne savent pas trop, parce que bah, quand on a été harcelé, on peut avoir peur de l'autre, on peut avoir peur de encore une fois, d'être ridicule quand on va essayer de l'aborder. Et je dis toujours, moi, aux personnes seules comme ça, qui sont jeunes, tu sais, il
Oui.
manque qu'une seule chose, c'est une autre personne avec toi. Parce qu'à deux, tout est possible. À
Bien
deux,
sûr.
on peut rencontrer une troisième personne, et puis à trois, une quatrième. Mais c'est la première à rencontrer qui est difficile. Et il n'y a
Oui.
rien, rien de fait pour ces jeunes qui sont seuls.
C'est vrai.
Vous voyez, des moments, des dates où on va se réunir. Voilà, si vous êtes seul, et ben, cet après-midi, là, ou dans 2 jours, on se donne rendez-vous au parc des Buttes-Chaumont. Et puis, voilà, chacun amène un sandwich, un truc, on va faire un pique-nique, et puis on va voir, on va parler ensemble. Et ça, je trouve que ça serait une excellente initiative, vous voyez?
Oui, tout à fait.
Réfléchissez-y, et n'hésitez pas même à me rappeler Parce que si vous avez envie de lancer ce genre de choses, je vous y aiderai vraiment, avec grand plaisir.
Mais avec plaisir, alors. Merci beaucoup.
Vraiment. Et je ne sais pas si vous me connaissez bien, mais je ne parle pas en l'air. Vraiment. Je vous promets de vraiment m'engager avec vous pour pouvoir vous aider à organiser ce type de rencontre.
Merci beaucoup, vraiment.
D'accord ?
Oui.
Merci à vous. Merci à
merci.
Vous plutôt, Agnès,
merci
parce que votre témoignage ce soir est plein d'intelligence, de sens, d'amour et de lumière. Donc, c'est très important d'avoir des témoignages comme le vôtre, vous voyez ?
Merci beaucoup, oui.
Et écoutez, tenez-moi au courant en tout cas, je serai toujours ravie d'avoir de vos nouvelles, d'accord ?
Merci beaucoup.
Au revoir, Agnès.
Au revoir.